Bienvenue sur le podcast Les recettes de Jaco, un format audio réalisé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs dans lequel on vous donne les clés et stratégies les plus efficaces pour le web et les réseaux sociaux. Je suis Arnaud Vautier, COO et stratège des réseaux sociaux de Jaco, qui est un véritable booster de croissance pour les TPME ambitieuses à qui on permet d'accélérer leur développement grâce à la puissance des réseaux sociaux. Notre fibre entrepreneuriale et les expériences que nous avons acquises à travers notre métier nous ont encouragés à faire entendre notre voix sur le web, car beaucoup de petites entreprises ne savent pas quel chemin prendre lorsque l'on parle marketing digital. Retour d'expérience, interview et partage, bienvenue dans les recettes Jaco, où vous allez découvrir ce monde parallèle qu'est le marketing digital. Avec un nouvel épisode toutes les deux semaines, abonnez-vous aux recettes de Jaco via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Aussi, je vous invite à nous donner 5 étoiles pour donner le maximum de chance aux structures dans le besoin de découvrir notre podcast qui, vous allez le voir tout de suite, est très riche en connaissances. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast si c'est votre première fois avec les recettes Jaco. Épisode spécial aujourd'hui car c'est notre première interview de cette saison 3 avec un guest non des moindres, à savoir Dikom Bakang, l'un des fondateurs de la marque Dear Muesli. Donc il fait partie de ces fameux Muesli Boys pour celles et ceux qui connaissent déjà. En effet, Dear Muesli et les Muesli Boys sont des entrepreneurs qui ont su marquer l'environnement startup français grâce à leur touche au niveau de leur branding, de leur communication et notamment sur Instagram. C'est pourquoi on a donc sollicité Dikom de notre côté parce que ça faisait sens que d'avoir un entrepreneur qui a réussi à utiliser cette plateforme comme un véritable booster de croissance pour sa marque que de pouvoir partager en quelque sorte son retour d'expérience et ses stratégies sur le sujet, mais aussi et surtout son expérience au niveau du branding, parce que au-delà de savoir utiliser Instagram, ils ont aussi su imposer en quelque sorte leur style et leur marque à leur public. Un honneur pour nous donc de l'avoir aujourd'hui dans cette première interview de la saison qui, vous allez voir, est riche en contenu, en valeur. Petit mea culpa d'avance de ma part avant de commencer, vous allez voir que sur certains passages, le son en ce qui me concerne, moi Arnaud, directement sera un petit peu faible. Cependant, vous entendrez normalement très bien Dikom et Ophélie, mon associé, du début à la fin, donc aucun souci. Vous ne raterez pas les passages les plus importants, bien évidemment. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'Ophélie, Dikom et moi-même pour cette interview. Je vous invite à prendre de quoi noter parce que vous allez voir, beaucoup de choses intéressantes vont être dites. On se retrouve juste après.
Donc, pour commencer, merci à toi, Dikom, encore une fois, d'être avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Jaco. Vraiment, merci.
Avec plaisir, merci.
Nous, on connaît déjà le cas Dear Muesli, Muesli Boys, parce que, pour la petite anecdote, lorsqu'on organisait des ateliers à Montréal, on utilisait beaucoup la vidéo que vous avez faite en collaboration avec Instagram pour pouvoir afficher en cas pratique aux gens ce qui était possible de faire avec les réseaux sociaux.
Okay.
C'était très puissant parce que c'était pas comme si on leur montrait une pub de Burger King ou Coca-Cola, par exemple.
Ouais,
c'était vraiment un petit business, des gars humains à taille humaine. Et c'est ça qui était très intéressant à montrer.
C'est cool ça.
De parler pendant 10 minutes moi-même de Dear Muesli, je ne comprends pas ce que tu te présentes un peu
Les
différentes activités que vous avez construites en partant de Dear Muesli.
Ouais, alors Dear Muesli, c'est une startup qui a été créée en 2015. Le but en 2015, c'était de démocratiser un petit peu et de rendre accessible la nourriture saine, en commençant par le petit déjeuner. Okay. Au moment où on s'est lancé, il y avait vraiment que des grosses marques, des grands groupes qui étaient sur le marché, Nestlé, Kellogg, etc. Et en fait, on s'était rendu compte qu'elles prenaient pas de risques, ces marques-là. Tu vois, si tu regardais les rayons à l'époque, c'était les trois marques qui proposaient toutes les mêmes recettes. Ils disaient, bah voilà, chocolat, amandes, fruits rouges avec de la poussière de fruits rouges et un autre truc, tu vois. Et en fait, nous, on disait que c'était quand même dommage qu'il n'y ait que ça, alors que nous, on faisait des recettes de ouf, tu vois. Donc on décide de se lancer, on fait tester un peu à nos potes, parce qu'on travaillait chez Abercrombie & Fitch.
Ok.
Et on fait tester à nos potes là-bas, qui aiment bien les produits, etc. Et on décide de se lancer parce qu'on voit qu'il y a un vrai marché. Pour la petite histoire, à l'époque, je regarde sur un truc qui s'appelle LSA. Donc, c'est un magazine sur la consommation de la food. Et en fait, tous les voyants étaient au rouge. Donc, tous les voyants disaient que le secteur des céréales saines pour le petit déjeuner était en baisse. Mais première chose que je dirais là, c'est Instagram. Le vrai pouls, il était au niveau d'Instagram et pas au niveau de LSA, qui est fait par des mecs qui font des études, qui prennent du temps à faire. Le pouls en direct, c'est sur Instagram. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Instagram, après avoir regardé sur LSA, j'ai vu que sur Instagram, la tendance en Australie, aux États-Unis, elle était super forte et qu'elle allait commencer à arriver en France.
Okay.
Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je prends en compte ? Je prends LSA ou Instagram ? Clairement, je prends Instagram parce qu'on avait bien vu les années précédentes que tout ce qui commençait en Amérique du Nord arrivait finalement 2 ans, 3 ans après en France. Donc, je me suis dit, ça va arriver forcément. Tu vois. Donc, on part sur ça, on y va à fond et on commence à créer nos produits qu'on vend. Ensuite, on rentre assez rapidement, donc on vend sur Internet et on rentre assez rapidement en distribution aussi.
Okay.
Donc, dans les épiceries fines, parce qu'à l'époque aussi, c'était l'essor des épiceries fines.
Oui.
Tu sais, à Paris, là, c'était toutes les petites épiceries super premium, super cool, etc. C'était vraiment le feu. Donc, tu vois, Monoprix ici, Franprix, ils se sont tous adaptés par rapport à l'essor des épiceries fines. Parce qu'en fait, les épiceries fines ont pris tellement de parts de marché à Franprix et à Monoprix qu'eux ont dû s'adapter en recréant un peu le modèle épicerie fine dans leur magasin. Tu vois, ils ont essayé de faire un peu comme Whole Foods, tu vois.
Ouais.
Et donc après, on est rentré chez Monoprix, on est rentré à la grande épicerie de Paris. C'était vraiment au fur et à mesure. Et nous, on a vraiment tout axé sur le digital. Sur le digital, au niveau de notre communication, on s'est dit, on crée un produit, mais il ne faut pas créer qu'un produit. Quand tu crées un produit, tu as un mec qui crée le même produit que toi. Qu'est-ce qui fera la différence entre ton produit et son produit ? Qu'est-ce qui va faire que le client va venir acheter ton produit ? C'est le branding, c'est tout ce que tu projettes en fait de ton produit, tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et nous, on a capitalisé sur ça. Et en fait, nous, assez naturellement, on a capitalisé sur nous parce que voilà, c'était un kiff pour nous de montrer comment on faisait, surtout qu'à l'époque, c'était assez opaque l'univers des startups. C'était assez opaque, c'était très, une boîte à lever 500 000 euros ou 1 million. Mais en vrai, on ne sait pas comment ils ont fait, on ne sait pas qui c'est. C'est souvent un peu les mêmes modèles. Hein, c'est un peu des copier-coller. Ouais. Tu vois, école de commerce, machin. Donc nous, on s'est dit en même temps que c'était un petit peu inconscient au début. Mais on s'est rapidement dit que c'était un de nos devoirs, en fait, de montrer que on pouvait être deux Asiatiques, deux Noirs, un Asiatique, et lancer une marque en dehors d'une marque qu'une marque de vêtements. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, parce que c'est ça, hein, qu'il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas Dear Muesli et les Muesli Boys. Donc, c'est Dicom, Bakang, qui est ton frère, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et Sylvain, okay. Que du coup, vous vous êtes rencontrés tous les trois à Abercrombie.
Alors moi, avec mon frère, on travaillait chez Abercrombie & Fitch.
Okay.
On a rencontré Sylvain, Sylvain qui est franco-américain vietnamien.
D'accord.
Et qu'on a rencontré là-bas parce qu'il mangeait du muesli aussi pendant la pause. Donc, c'était assez inattendu, mais on a rencontré comme ça. Et ouais, on a trouvé. En plus, les gens nous disaient qu'on avait tous les trois un look. Enfin, on nous voyait quoi, quand on passait. Donc, qu'on n'hésite pas à capitaliser sur ça. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et c'était assez naturel. Hein, parce qu'on est d'un naturel assez démonstratif, je dirais. On va être là, on va être. Comme on dit en anglais, un peu outspoken, tu vois. On va pas hésiter à se mettre en avant, quoi. Et ça a joué en notre faveur parce que personne ne le faisait à cette époque-là. La marque qui le faisait à l'époque dans l'agroalimentaire, c'était Michel Augustin.
Ouais, effectivement. Et ça a marché très, très fort.
Ça a marché très fort. Michel Augustin qui s'est calé sur le modèle de Ben & Jerry's. Ouais. Mais ça a marché très, très fort, quoi. Les gens ont vraiment apprécié, etc. Et nous, pour être honnête, en fait, je n'aimais pas quand on nous comparait à Michel Augustin.
Ouais.
Parce que je trouvais en fait, qu'on n'avait rien à voir. Parce que moi, en fait, je ne m'étais pas rendu compte que Michel Augustin… en fait, je ne comprenais pas le rapprochement. Mais parce que pour moi, ils sont vieux par rapport à nous. Ce n'est pas du tout la même vibe qu'on a. Mais dans l'essence de se mettre en avant, de mettre des visages sur une marque, c'est complètement ça, en fait, tu vois.
Oui.
Donc, j'ai mis mon ego de côté. Je me suis dit, oui, en fait, quand les gens disent qu'on leur fait penser à Michel Augustin, mais en plus jeune et un petit peu différent, et ben, en fait, je comprends. Parce que c'est juste, c'est ton personal branding, en fait.
C'est ça, qui ne se faisait pas du tout à ce moment-là.
Exactement. Qui ne se faisait pas du tout. Donc, on a vraiment axé sur ça. Et du coup, grâce à ça et grâce aussi au bon produit, hein. Mais grâce à ça, on a eu pas mal de presse. Et la presse, ça nous a permis de faire une levée de fonds.
Okay.
Et de rentrer à Station F. Donc, Station F, qui est le plus grand incubateur c'est le plus grand startup campus du monde. C'est pas le plus grand incubateur, mais il a plusieurs incubateurs à l'intérieur. Et du coup, comme on avait déjà le vent en poupe, on est rentré facilement à Station F. Et à Station F, on a pu justement rayonner très très fort. Et c'est là que j'ai rencontré Ophélie, d'ailleurs, quand tu es venue du Canada.
En 2017, si je ne dis pas de bêtises.
En 2018. En 2018, ok.
C'était en 2018, oui. Ouais, ouais, ouais.
Ouais.
Donc ouais, c'était en 2018, exactement. Et ouais. Station F, c'est impressionnant, c'est une machine. Et même et apparemment, ils ne laissent pas rentrer tout le monde comme ça. Ils veulent savoir, mais pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu vas faire?
Est-ce que
pourquoi tu viens? Enfin, c'est assez, assez impressionnant.
Ouais, et le processus d'entrée, en plus, le processus d'entrée à Station F, c'est savoir que tu as 64 000 candidatures.
Ouais.
Et donc, voilà, il faut vraiment que ton projet, il soit… Enfin, nous, on était le premier batch, hein, donc dans tout début…
Okay.
Et donc, il faut vraiment que ton projet, en fait, il faut vraiment savoir le vendre. Et ils te demandent, en plus, ils te demandent pourquoi toi, en tant que fondateur, tu vois. Parce qu'en gros, vous pouvez être 50 à avoir postulé à Station F avec la même idée.
Ouais.
Et ce qui fera la différence, c'est les fondateurs. C'est pourquoi toi, tu es dans ce truc-là et pourquoi pas un autre. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, ils viennent vraiment regarder l'être humain,
ouais.
La cause. Et l'intention aussi.
Exactement.
Et est-ce que ton pourquoi, il est assez fort?
Exactement. C'est... Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est si demain, tu as un problème de ouf avec ta boîte, que tu es à découvert, que tu n'arrives pas à lever des fonds, est-ce que tu vas tenir et aller te battre? Ou est-ce que, en fait, c'est juste un hobby que tu avais et quand ça va mal, hop, tout le monde quitte le navire. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
du jour au lendemain, j'arrête tout, je retourne chez mes parents et c'est terminé.
Ouais, ou alors voilà, moi finalement, je préfère me trouver un job. Tu vois, il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas pour eux, tu vois. Et Station F, ils essayent de filtrer pour pas que n'importe qui aille, tu vois.
Ouais,
mais c'est intéressant, c'est ça qui fait leur réputation aussi. C'est que c'est sérieux et il y a vraiment quelque chose de comment dire, c'est filtré à l'entrée.
Ouais, carrément.
Ouais.
C'est filtré et c'est cool parce qu'après, tu as un vrai accompagnement, tu vois. en incorporation F, ça nous a permis de bénéficier de la rayonnance parce que les gens se disaient ouais. Ah, ils sont en station F, ça veut dire que ça cartonne, machin. Et du coup, bah, tu sais, c'est un peu le truc venait d'ouvrir, tout le monde voulait visiter, donc tous les fonds d'investissement étaient là, oh, il faut que je sois en station F et tout. Et du coup, toi, tu en bénéficies parce que tu y es. Donc pour eux, c'est des gages de sérieux en y étant déjà, tu vois.
Oui, bien sûr.
Donc ça, ça a joué dans votre crédibilité. Ça, c'est certain. Ouais. Puis en plus, vous étiez très fort sur les stories. Donc, c'était à Station F, mais dans tous ces recoins. Donc, forcément, vous leur faisiez une bonne promo, mais
un peu. Une bonne pub, ouais.
Franchement,
ouais, en fait, le but, c'était vraiment de… Parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait… Notre propre labo, on l'avait déjà, notre propre labo de production, avant de rentrer à Station F. On avait déjà nos bureaux. Donc, quand on est rentré à Station F, on s'est dit que c'était une opportunité de ouf parce que on pouvait montrer aussi aux gens comment on vivait dans Station F. Et puis, comme toutes les autres startups, voilà, on a bien vu hein, les autres startups, elles ont pas communiqué sur Station F. Ils ont dit sur LinkedIn, on est une boîte de Station F maintenant.
Ouais, c'est ça.
Alors, tu vois ce que je veux dire? Ils ont mis at Station F alors que nous, on montrait le quotidien là-bas. Tu vois, on faisait des stories, on montrait. Et donc, c'est pour ça que Station F, en fait, quand tu postules, ils te demandent comment tu peux contribuer au rayonnement Station F. Nous, c'est ça notre réponse, c'est on fait des stories. Et on montre le quotidien de start-upers, alors que les autres, c'était, je sais pas, oui, je vais donner des perks, des trucs comme ça. Mais nous, c'était vraiment, on donne plein de trucs, mais en même temps, on montre le quotidien pour que ça rayonne vraiment au niveau humain et pas qu'au niveau, on fait moins 20% sur ça, tu vois.
Yes.
Et voilà, donc ça, ils ont bien aimé. Du coup, on a eu une très bonne relation avec eux. Et donc voilà, et ensuite on a levé des fonds du coup en étant à Station F avec un des fonds de Xavier Niel, avec son fonds à Kima Ventures, on lève 600 000 euros avec Kima et d'autres en fait. Et voilà, et après on continue notre truc. Ce sur quoi on a pas mal axé aussi, c'est on a fait pas mal de collabs. Nous, le truc qu'on aime bien, c'est en fait on considère que notre marque, c'est pas forcément une marque food. On kiffe la food, mais on la considère plus comme une marque lifestyle, comme les marques un peu streetwear, etc.
Ouais, bien sûr. On
a tous le même exemple, Supreme, là aujourd'hui, mais il y en a tellement d'autres qui ont fait des collaborations avant. T'as Keith, tu vois, qui fait des collaborations avec Coca-Cola, avec New Balance, avec Nike, etc. T'as énormément de marques qui collaborent et nous, on s'est dit, en fait, on est de cet univers-là, on est de l'univers un peu fashion, streetwear, des collabs entre les artistes et une marque de vêtements, entre un peintre, etc. Donc, on est vraiment de cette génération-là, de cette ère-là. Donc, on a voulu le faire pour notre marque, tu vois. Donc, alors, on a fait des collaborations.
Du coup, tant que tu nous parles de branding, ce qui est hyper important au final, parce que c'est clairement l'identité d'une marque et qui n'est pas facile à appréhender souvent par les entrepreneurs. Sans vouloir être péjoratif, le muesli de base, voilà, c'est pas un produit révolutionnaire dans le sens où c'est pas comme si que tu avais inventé quelque chose, tu vois. Et souvent, les gens pensent que pour rayonner, pour atteindre un peu ce niveau de rayonnance que vous avez réussi à donner à dire muesli, il faut avoir un truc exceptionnel, genre il faut être Mark Zuckerberg.
Alors que non,
exactement.
Non.
Et quels sont toi les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui vous écoutent? Sur comment faire un bon branding.
Ok, alors pour moi, comme tu dis Arnaud, déjà, il n'y a pas à réinventer la roue pour faire du business.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui se disent, pour me lancer dans un business, il faut que je réinvente la roue. Moi, je crois beaucoup à la stratégie de l'océan bleu. Tu vois, le fait de… T'as, pour ceux qui écoutent, tu as un marché. Et dans ce marché-là, tu as tout le monde qui va se lancer dans le même type de service. Et toi, la chose que tu dois faire, c'est si tu proposes ce service-là, propose-le différemment ou propose autre chose dans le même marché, quelque chose qui n'a pas été attaqué encore. Comme ça, le moment où les autres se rendront compte qu'il y a de la thune à faire là-dessus, tu seras déjà en avance. Tu vois. Et, mais tu n'as pas à réinventer la roue, tu n'as pas à créer Facebook pour que ça marche. Tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est là que le branding arrive, c'est que pour moi, un produit et une marque bien faite, c'est une marque qui fait, comment dire, c'est une marque qui fait qu'on oublie toutes les autres. C'est-à-dire, mmh, sur un marché, tu as des glaces. Quand tu arrives sur le marché, il faut que ton design, que ton ton, le ton que tu utilises, tes visuels soient tels que toutes les marques qui existaient avant, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est comme si toi, tu réinventais la façon de communiquer. Je prends un exemple tout con. Tu vois, nous, on connaît Häagen-Dazs, etc. Quand Ben & Jerry's sont arrivés, ils étaient complètement différents. Genre, ils sont arrivés avec des dessins de merde, de vaches, des trucs très, très enfantins, etc. Machin. Mais ils se sont dit, on perturbera tellement les gens là-dedans que ce sera obligé qu'ils se souviennent de nous. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Parce que le truc, c'est quitte à faire un truc, quitte à rentrer dans un marché où tout le monde est, autant faire en sorte que les gens se souviennent de toi et c'est pas en faisant comme tout le monde le truc très léché de la glace Häagen-Dazs machin ou alors de machin que tu vas sortir du lot comme tout le monde fait ça, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Fais un truc qui va casser. Et c'est pour ça que Michel Augustin, c'est un bon exemple. C'est parce que eux, ok, ils ont repris le truc de Ben & Jerry's, etc. Mais c'était un moment où ça valait le coup de le faire en France.
Oui, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, pour moi, un bon branding, c'est, d'une part, c'est bien étudier ce que font les autres en termes de positionnement, de marque, etc. Et après, se dire, ben voilà, moi, comment je peux être différent et comment je peux faire en sorte que ça corresponde aussi à qui je suis aujourd'hui en tant que marque, tu vois. C'est vraiment quel est ton message aussi, c'est très important. Le message de la marque, ne pas donner forcément le même message que les autres, tu vois. Nous, on a vu énormément de marques nous copier. De toute façon, il y a beaucoup de marques qui se copient entre elles. Hein, mais tu vois, quand tu es une marque qui arrive sur un marché, essaye de faire en sorte qu'encore une fois, on retienne ton message. Si tu ne te différencies pas avec le produit, avec la qualité du produit, différencie-toi avec le message. Parce qu'en fait, encore pire, si tu ne te différencies pas avec ton message, différencie-toi avec tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le message, il y a ce que tu vends, mais avec tes valeurs, ça, on ne pourra jamais te le retirer. Et nous, ce qu'on s'est dit, en termes de branding, parce qu'on en fait partie intégrante, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas retirer à dire Muesli? Il ne peut pas y avoir deux fois les Muesli Boys.
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ceux ensuite qui auraient essayé de faire des Muesli Boys avec le même type de produit, ben les gens auraient dit ouais, mais vous êtes des copieurs. Tu vois ce
c'est
que
ça,
je veux
dire? C'est ça, exactement.
Donc, mais on l'a remarqué, hein? On l'a remarqué, ça. Enfin, moi, je l'ai vu. En tout cas, j'ai vu des marques arriver. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ça s'inspire trop de dire Muesli? Tu vois, donc forcément, le consommateur qui connaît bien la marque, qui est fidèle à la marque, par exemple, qui la suit et tout, il va se dire, mais non, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, voilà.
Mais tu te connais pas, en fait. Tu te connais pas.
Tu te connais pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un vrai travail de plateforme de marque. Donc, se dire, voilà, je sais que dans la vraie vie, tu as ton temps versus ce qu'il faut que tu fasses. Le temps, c'est qu'il faut vendre.
Oui.
Mais ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est créer ta plateforme de marque pour te dire, voilà, moi, qui je suis, en quoi je crois, sans regarder ce que font les autres, en quoi je crois, Et même sans parler du produit, c'est voilà, moi, mes valeurs, c'est ça. Ce que j'aime, c'est quoi? Moi, j'aimerais bien que ma marque, elle puisse parler à tel type de personne. Peut-être, par exemple, moi, tu vois, la cible, nous, c'était les mecs qui traînaient chez Colette. Ouais. Et qui allait, toi, ce que je veux dire, qui allait chez Colette, qui allait en même temps, un petit peu de temps en temps, à la grande épicerie, mais qui était fan de sneakers et qui aimait la bonne musique un peu hip-hop, et en même temps qui pouvait sortir à des apéros un peu cool. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
On a créé tout ça, et en fait, notre cible, c'était nous. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ah, en fait, ouais. On a fait un produit qu'on voulait. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font des produits qui se disent, en fait, ça va sûrement plaire à des gens, mais eux, est-ce que eux, ils l'utiliseraient?
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y en a plein, c'est non, je n'utiliserai pas. Mais en vrai, s'il y a des gens qui. Il y a forcément des gens qui vont en avoir besoin, mais avant que les gens en aient besoin, il faut qu'ils kiffent. C'est comme, je prends l'exemple du. Quand tu rends ton produit en magasin, c'est complètement différent de quand tu le vends sur Internet. Parce que sur Internet, quand le mec vient sur ton site, c'est qu'il sait déjà ce que tu vends. Et qui tu es. Quand il arrive en magasin dans les rayons qui font 10 km, tu es perdu au milieu de tout le monde.
C'est ça.
Donc déjà, ton packaging, tout ce que tu voulais faire de minimaliste, oublie. C'est tout ce que tu voulais faire de tout petit sur le côté, machin, c'est un détail, machin, oublie, parce que le mec qui passe en rayon, et il n'a pas 30 secondes à accorder à ton produit. Donc, s'il ne le voit pas, ton produit, il ne bougera pas. Et si ton produit, il ne bouge pas, au bout d'un moment, les gars qui regardent les chiffres de vente de ton truc, ils disent ça n'a pas bougé, on l'a rentré il y a 4 semaines et ça on va les sortir.
Ouais,
et on te sort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, important, branding, ton logo, il doit être fort, mais il ne doit pas. En fait, ton logo doit être intemporel. Et les logos intemporels, c'est très dur à faire parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui vont essayer de faire comme. Et quand tu veux faire comme, c'est la pire des choses. Faire comme, c'est n'être qu'un copier-coller de quelqu'un, donc la version diluée de quelqu'un. Et quand tu es la version diluée de quelqu'un qui n'est pas très bon, eh ben, tu vois, tu es encore moins. Et en fait, c'est chiant parce que la personne qui n'est pas très bonne, toi, tu vas la copier, mais elle est déjà en train de changer. Elle est déjà en processus de changement de son logo.
Oui, très important, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Penser plus loin.
Yes.
Voilà,
top. Merci pour ces éclaircissements et avec les précisions en plus pour tout ce qui est produit, food. Donc, c'est top.
Cool.
Donc, moi, ce que je retiens beaucoup de ça, c'est que une marque, pour qu'elle se démarque, une entreprise, pour qu'elle se démarque, pour que tu te démarques avec tes produits ou tes services, c'est de casser les codes, en fait. C'est d'analyser autour ce qui se fait déjà et de dire, non, moi, avec mes propres valeurs, voilà comment je le ferai, voilà comment j'amènerai le truc.
C'est ça.
En fait, il n'y a pas besoin de chercher loin, en fait. C'est selon tes propres valeurs, à toi, c'est comment tu casserais les codes.
Exactement. Et c'est exactement ça. Et tu vois, nous, si je prends l'exemple de Dear Muesli, on a eu la chance, en fait, on a la chance d'avoir un background et un upbringing, tu vois, on a grandi dans une diversité qui est telle que toutes nos influences, elles viennent de partout. Et tout le monde n'a pas cette chance, tu vois. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir voyagé, d'être au contact de gens de plusieurs origines différentes, avec plusieurs modes de pensée différents. Du coup, ils n'ont pas toute cette diversité que nous, on a. Et nous, cette diversité-là, on a pu l'appliquer tout simplement, même dans notre communication, avec des références, etc. Et ça a parlé tout de suite aux gens. Et quand tu crées ta marque, c'est bien de la faire matcher à qui tu es, mais aussi, de temps en temps, si tu trouves que ce n'est pas assez différenciant, ouvrir son esprit à d'autres choses, tu vois. Trouver son inspiration. Nous, notre inspiration, elle venait pas de la food pour tout ce qui était packaging, même storytelling. C'était plus voilà des du de la, le monde par exemple du vêtement de l'art etc. C'est de là d'où ça vient de l'entertainment. C'est plus de là d'où ça vient, mais il faut pas être monoproduit. C'est pas parce que je vais lancer une marque de bougies que je vais m'intéresser à ceux qui font des bougies. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, c'est en allant chercher ailleurs que justement les super collabs se font, que la brand, elle peut vraiment être différenciante.
Ouais, bien sûr. Et à quel moment, du coup, est-ce que c'est dès le lancement de Dear Muesli que vous avez commencé à utiliser les réseaux sociaux de cette manière-là? Ou est-ce que ça a pris un certain temps avant que vous compreniez l'opportunité qu'il y avait derrière? Parce que j'ai vu quand même que la première publication était, si je ne dis pas de bêtises, j'ai regardé tout à l'heure, le 15 février 2014,
ouais.
Sur Dear Muesli.
Ouais.
C'était du porridge.
Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est intéressant parce que nous, on a ouvert Dear Muesli en société en mars 2015.
D'accord.
Donc, en gros, on s'est dit, à l'époque, Facebook, ça devenait grave bouché au niveau de… En gros, là, par exemple, il faut être sur TikTok, tu vois.
Ouais.
Mais ça correspondait un petit peu à cette période-là où Facebook, ça devenait payant et il faisait baisser ton reach. Donc, on s'est dit, on va créer en priorité un compte Instagram. Parce qu'Instagram, c'est l'image. Et les gens, avant de manger avec la bouche, ils mangent avec les yeux.
Exactement.
Et moi, en ayant été photographe pendant 5 ans, j'ai fait de la photo en même temps que mes études et tout. Je sais faire des photos, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai le matos, je sais faire des photos, j'ai un appareil photo pro, etc. Et il me fallait la bouffe et je faisais les photos. Donc, je me suis dit, il y a un truc à jouer à ce niveau-là. Et comme je ne voyais pas beaucoup de gens qui faisaient ça vraiment au début, bah, je me suis dit… Ah, vas-y, on va faire ça. Mais je ne m'étais pas non plus mis à fond sur Instagram, mais on en avait un et on savait que ça allait avoir un potentiel.
Ok. Et au niveau des stories, justement, est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement ou que vous avez dû mettre en place au début avec une routine, etc.?
Non, c'est venu très naturellement. D'accord. Les stories, en fait, nous, en fait, avant les stories, si tu regardes bien, on se filmait déjà.
Ouais.
Et on se filmait et après on postait, tu vois. Et ouais. Donc, de toute façon, en fait, quand les stories sont arrivées, on s'est dit « Ah, putain, voilà, enfin !» Et en fait, quand les stories sont arrivées, on s'est dit vraiment avec ces mots, je me rappelle, j'ai fait une interview, on s'est dit « On a notre propre TV show. »
Ok.
Tu exactement. Vois, genre, on a notre propre truc des Kardashians, là. En fait,
ouais.
Avec les stories, ils ont leur propre « Living with the Kardashians », tu vois. Parce qu'en fait, tu documentes ta vie comme tu le souhaites.
C'est ça.
Et donc, en fait, nous, on s'est dit, hey, on a notre propre émission de télé. Vas-y, on va faire des capsules, on va faire des trucs et tout. Et les gens pourront suivre au quotidien. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, quoi.
OK.
Et ce qui a été intéressant, c'est que vous avez lancé votre page Instagram avant d'enregistrer l'entreprise. Donc, quelque part, ça a servi d'incubateur. Et c'est là que vous avez pu faire aussi des tests et faire une étude de marché.
Exactement.
En fait.
Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on s'est dit… À quoi ça sert de créer une entreprise et ensuite de créer un Instagram? Ça sert à rien parce que ce que tu veux, c'est que quand ton entreprise est incorporée, que tu aies déjà des ventes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a encore trop de gens qui vont créer. Enfin, il y a beaucoup moins de gens qui le font maintenant, mais il y avait à un moment beaucoup de gens qui créent leur société. Une fois qu'ils créent leur société, ils vont chercher leurs produits. Ensuite, ils vont créer leur Instagram et commencent à construire. Mais alors qu'en fait, il faut que tu aies déjà des gens sur Instagram pour valider le fait de c'est faire ça. Ton truc ou pas, tu vois. D'avoir déjà les retours et après, là, tu crées ton Instagram parce qu'il y a déjà des gens qui ont précommandé ton truc. Enfin, tu vois, tu vois, même au niveau des précommandes, les gens, ils précommandent et là, tu crées ta boîte après, tu vois.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment… Nous, on a vraiment fait de façon… step by step et de façon lean, tu vois.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est clairement du lean startup au final.
Exactement. On a lu tous les livres.
Ah oui,
On a vraiment. On a vraiment lu tous les livres. Quand on faisait ça, on s'est dit, OK, on va suivre le précepte de lean startup, on va faire de façon lean. C'est ce qui valide notre truc, c'est que les chiffres ou un peu le retour du public. Même s'il y a pas mal de gut feeling aussi, il y a des trucs on se dit, ok, les gens quand tu leur demandes leur avis, ils vont dire ça. Mais est-ce que s'ils sont confrontés pour de vrai à la question, au choix, ils vont vraiment choisir ça? Et en fait, tu vois que ça diffère souvent. Ouais. De temps en temps, quand tu donnes le choix, quand ils sont derrière leur écran, bah, ils choisissent un truc. Mais quand ils sont face vraiment à l'objet et tout, c'est un peu différent. Donc, il faut avoir aussi son ressenti personnel.
Exact. Bah, c'est comme le dit, je crois que c'est Oussama Hamar qui dit ça, que les clients sont des menteurs, sont tous des menteurs.
ouais, bah, il n'a pas tort. Hein.
C'est ça.
Les clients sont tous des menteurs, sauf quand ils sont vénères.
Ouais, voilà, exactement.
Là, ils sont transparents. Là, ils sont vrais.
Ouais, là, ils sont transparents de ouf.
Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent pour justement démarrer en Lean Startup?
Le livre Lean Startup.
Ouais, tout simplement.
D'accord. OK, d'accord. Livre, donc, t'as pas eu Est-ce que, si je te pose la question, ça a été quoi ton livre coup de cœur? Vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes beaucoup documenté, vous avez lu tout ça.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y en a un qui t'a principalement marqué?
Bah moi, vraiment, c'est Lean Startup, en fait. C'est vraiment celui-là.
Ok, uniquement. Fait. D'accord, ok.
Bah en fait, ouais, c'est celui-là. Je l'ai lu et en fait, c'était un peu ma Bible. Je revenais dessus parce qu'en fait, c'est un livre où il donne plein d'exemples. C'est une suite d'exemples, en fait.
D'accord, et c'est vraiment des études de cas, c'est concret.
Ouais. Et ouais. La stratégie de l'océan bleu aussi. De l'océan bleu, c'est il est vraiment bien parce qu'il il t'explique avec des études de cas aussi. Après, il y en a que j'ai lu plus tard, livre de Gary V, Jab, 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 Right Hook, tu vois, qui est cool. Mais quand j'ai commencé, c'est vraiment les deux autres livres que j'ai lus et qui m'ont. En fait, ces deux livres-là, c'est déjà assez. Tu vois ce que je veux dire?
Super. Parce qu'il faut l'intégrer, après il faut pratiquer.
Parce que aussi il y a beaucoup de gens, là je le dis à ceux qui écoutent, qui passent leur temps à lire des livres. Ils passent leur temps à lire des livres, mais le problème c'est qu'après ils agissent pas. Et tout le temps que tu cherches des informations, c'est du temps que tu passes pas sur le terrain. Et en fait il y a un petit peu cette, tu vois, c'est un peu le syndrome de l'étudiant éternel, tu vois.
Ouais.
L'étudiant éternel, c'est le mec qui a besoin d'apprendre encore plus sur un sujet, alors qu'il va jamais mettre, c'est ça. Pour se rassurer, mais surtout pour ne pas mettre en application. Et le problème, c'est ça. C'est au bout d'un moment, ferme ton livre, mec.
Mais ça, c'est très français, hein, quand même, hein, comme attitude.
C'est toujours, je le ferai quand je serai assez prêt. Donc, en attendant, j'étudie, je me forme parce que je veux aussi avoir de la crédibilité. Ça, c'est des choses que j'ai entendues aussi.
Ouais, la crédibilité, c'est en faisant, en vrai.
Tu vois? C'est comme ça que tu apprends le plus. C'est vraiment quand tu te lances, tu sais pas comment ça va se passer. Tu vas fabriquer ton parachute en cours de route si tu t'écrases. Ben oui. Mais c'est ça, en fait.
Tu t'écrases, mais t'es pas mort. c'est ça la beauté du truc.
Ouais.
Normalement, on t'en ressort toujours avec quelque chose de positif, donc effectivement.
Bien sûr. T'as largement appris. Il y a un des potes qui dit quand tu t'écrases et qu'il faut que tu te relèves là où tu étais à ton maximum. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Parce que tu es riche de tout ce que tu as appris. Donc, tu ne te relèves pas de zéro. Tu te relèves de tout ce que tu as appris. Ça, c'est ton début.
Et tu repars pour grandir encore plus.
Exactement.
Et du coup, tant qu'on est sur la partie conseils, quels seraient les conseils que tu pourrais donner, peut-être ton top 3 si tu en as, pour bien faire vivre une marque sur Instagram?
C'est une très bonne question. Alors, pour bien faire vivre une marque sur Instagram, la première chose que je dirais, c'est ne pas hésiter à, ne pas hésiter à être spontané. Première chose, je vois beaucoup trop de gens qui sont en mode ah oui, mais ça va pas dans le feed. Ah oui, non, mais ça, non, mais ça, on n'avait pas prévu de le poster aujourd'hui. Pourquoi tu veux poster aujourd'hui? Eh, au bout d'un moment, tu t'en fous. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir s'en foutre. Parce que Instagram, c'est pas censé être une œuvre d'art. C'est censé être un truc où tu envoies des. Bah oui, tu envoies des informations qui sont stylées, mais en fait, tu crées du contenu, c'est du contenu. Ton contenu, tu peux le mettre, l'enlever, le remettre si tu veux. Si tu regardes le Instagram de GQ, il réchauffe des trucs de 2017 qu'ils remettent à chaque fois. Ouais. Hey, genre, est-ce qu'on leur dit quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont être en mode ah non, mais ça, je sais pas, là, la photo, elle est pas trop bien cadrée. Non, mais là, ça fait un peu terne. Non, mais là, machin. Eh, hey, on s'en fout.
Ouais. Le...
ce qu'il faut se dire, c'est que le sur Instagram, comme je dis beaucoup, 90% des gens qui sont sur Instagram, c'est des spectateurs. Donc, ils vont rien poster. Ils vont juste être en train de scroller. Les 10% restants sont ceux qui postent du contenu. Est-ce que tu penses que la personne qui va sur ton Instagram, sur ta photo qui la voit, elle va dire « Ah non, là, elle est un petit peu terne, la photo de leur truc. Hey, » ils s'en foutent.
Il n'en a rien à foutre. Je crois que c'est Gary Vee qui avait dit ça, justement. Gary Vee qui avait dit ça il y a quelques mois, qui disait arrêtez de prendre, il a été vraiment vulgaire quand il a dit ça, mais arrêtez de prendre votre feed Instagram pour une œuvre d'art. C'est pas une œuvre d'art.
Oui, c'est pas une putain d'œuvre d'art. Ouais.
Voilà,
comme ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est.
Et c'est vrai parce que les gens s'attardent sur l'apparence, mais pas sur. Le contenu.
Le contenu, exactement.
Ce que tu délivres, en fait.
Il s'attarde sur le contenant. C'est le contenant, mais c'est le contenu qui est important.
Ouais.
Et vraiment, la première chose, c'est ça. Si à un moment, tu as envie de poster un truc que tu trouves bien sur le moment, poste-le. Si ça se trouve, ta photo ou ta petite vidéo de 5 secondes elle cartonnera beaucoup plus que tous tes autres posts pris avec un appareil photo pro.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ça, on le voit tellement là dans le truc de Discovery là d'Instagram, des trucs tout pétés, mais c'est drôle et donc ça fait 50 000 vues, tu vois.
C'est ça.
Et ouais. Et donc ça, c'est la première chose.
Spontanéité.
Deuxième conseil que je donnerais, ça serait d'avoir un petit peu, pas une table des matières, mais de se dire quel type de contenu on veut poster.
Ouais.
C'est-à-dire de savoir à l'avance, voilà, moi j'ai envie de poster une fois de temps en temps un truc lifestyle. Il faut que je poste dans les 9 photos un peu de produit. En fait, il faut qu'on sache ce que fait ta marque en 9 photos, quoi.
Ok. Donc une ligne éditoriale, un plan de contenu clair.
Ouais. En fait, il faut quand même ça. En fait, il faut que tu saches que tu veux faire produit, lifestyle et qu'on voit des gens de la boîte. Produit, lifestyle, gens de la boîte. Produit, lifestyle, gens de la boîte. Tu vois, un truc comme ça, les gens arrivent à sentir ta vibe. Tu vois, parce que moi, je peux voir en 9 photos, je vois la vibe de la marque ou de la personne. Tu vois. C'est très simple. Tu vois, c'est comme il y a un mec qui est passé dans notre podcast qui disait dis-moi où tu sors. Je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es, tu vois. Ben moi, c'est... Montre-moi ton Instagram, je te dirai qui tu es. Et ouais, tu peux savoir beaucoup de choses sur les gens en regardant leurs 9 premières photos d'Instagram. Si tu vois leurs vacances, déjà, juste comment ils prennent leurs photos de vacances, tu vois, ils vont à la boule, ils vont machin. Tu sais quel genre de personne c'est. Tu vois qu'ils font des pique-niques, tu sais quel genre de personne c'est. Tu vois, ce que je veux dire.
Faudrait qu'on fasse un quiz alors, comme ça, un quiz avec des comptes d'Instagram. On te donne des noms et vas-y. Faudrait qu'on fasse un quiz. C'est sympa, ça.
C'est trop bien. Mais oui, mais voilà, en fait, tu arrives à savoir qui sont les gens, à connaître les marques juste en regardant leur profil Instagram. Et nous, tu vois, on a voulu faire en sorte que les gens se sentent puissent s'identifier à nous, tu vois. On est une marque identitaire, les gens peuvent s'identifier. tu vois. Et c'est marrant parce que 70% des gens qui nous suivent sont des femmes.
Ok.
Tu vois. Alors qu'on est trois garçons, mais on a quand même 30% d'hommes parce que parce qu'on est des gars. En fait, on est des mecs et c'est important de. Quand on reçoit plein de messages de gens qui nous disent voilà, c'est trop cool de vous voir, vous êtes une source d'inspiration, machin, bah, c'est super cool. Mais ça, c'est parce qu'on a osé se montrer. Mais il y en a plein qui ne veulent pas se montrer, tu vois. Qui ne se pensent pas légitimes. Et tout le monde est légitime si c'est ta marque, tu vois. C'est ce que tu veux.
Bien sûr.
Et puis aussi en France, il faut savoir qu'en France, c'est un peu moins le cas maintenant, mais en France, quand nous, on a commencé, les gens ont peur de ce truc. Ils peuvent trouver que c'est arrogant de se mettre en avant.
C'est toujours beaucoup le cas, notamment dans les stratégies de branding personnel. Ouais. En tout cas, nous, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent ah, ben, « j'ose pas, j'ai peur, je ceci, je cela ».
Il y a le syndrome de l'imposteur et tout.
Exactement. Ouais, le syndrome de l'imposteur. Mais tu vois, nous, on croit… Enfin, nous, ce truc-là, on l'a pas du tout pris en compte quand on a créé Dear Muesli et qu'on a fait le compte Muesli Boys et tout. On s'est dit… Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore pas très à l'aise, mais qui commencent quand même. Hein. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent. Après, il y a deux types de personal branding. Il y a ceux qui font tu veux que je te dise comment être financièrement indépendant en 30 jours grâce à ma société de conseil en immobilier. Tu vois, il y a ces mecs-là. Moi, je suis à Miami, j'ai investi en banque en 2012 et là, je suis millionnaire. Tu vois, il y a ce genre de mecs et il y a les gens qui ont créé leur boîte et qui ont besoin de se mettre en avant pour montrer la production, pour montrer autre chose. Pour montrer qu'il y a des humains derrière, tu vois. Et faut pas hésiter.
Bien sûr.
Pour moi, il faut pas hésiter à partager, tu vois.
Je suis tout à fait d'accord. Quand il y a effectivement, véritablement quelque chose à partager, précisément que si c'est juste pour faire du bling-bling, ça sert à rien. Mais c'est de ça, en fait, je pense que à force de voir ces pseudo-marketeurs qui sont là à faire du show-off tout le temps, bah, les gens, ils assimilent le fait de se montrer en story à faire ça, tu vois.
Bah ouais,
c'est j'ai rien à montrer. Si t'as des choses, effectivement,
t'as toujours quelque chose à montrer.
C'est ça. Si dans ta tête tu te dis que pour montrer quelque chose il faut que tu roules en Ferrari, que tu habites à Miami, bon bah effectivement, pas tout le monde a quelque chose à montrer à ce moment-là.
Mais grave.
C'est pas ça qu'on veut.
Si une blogueuse peut passer ses deux mois de confinement à montrer ses ensembles chaque jour et avec son décolleté, donc ça veut dire qu'elle n'a rien à montrer. Toi, tu peux très bien montrer ta vie.
C'est ça, exactement. Tout à fait d'accord.
Dit comme ça, ça va se transformer en citation, je crois.
Non, mais c'est vrai, non?
Tu vois,
moment, si les gens ils montrent rien, mais ils le montrent tous les jours, toi, tu peux montrer des trucs intéressants tous les jours aussi. Ou même
exactement.
Tous les deux jours,
et oups, excuse-moi, il y a quelqu'un qui passe. comment dire, donc là, si on se résume, en fait, ton top 3, le premier, c'est d'être spontané, de pas chercher la perfection et de s'amuser, en fait.
C'est ça.
Le deuxième, c'est d'avoir un plan, de savoir en 9 postes ce que tu vas pouvoir faire jaillir de ta marque.
Exactement.
Juste avec les 9 premiers postes, donc avoir un plan.
C'est ça.
Et donc, le troisième, ça serait…
Et donc, le troisième, ce qu'il faut se dire… Alors, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils partent de ma page. Quand ils s'en vont de ma page, j'ai envie qu'ils se sentent mieux que quand ils sont arrivés.
L'expérience.
Donc, l'expérience. Il faut apporter du savoir aux gens. Ouais. En fait, il faut leur apporter un truc en plus. Il ne faut pas qu'ils viennent sur ta page… Je prends l'exemple des blogueurs parce que c'est beaucoup ça aussi chez les influenceurs. C'est regarde comment ma vie est belle. Regarde comment toi, ta vie elle est pourrie. Et voilà, moi, je montre ma meilleure vie. Et donc, les gens qui sortent de ces Instagram-là, ils en sortent dégoûtés de leur vie. Mais leur vie, elle est très simple et elle est très bien. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gens sortent grandis. Tu vois,
sans ils ont passé un bon moment.
Ils ont passé un bon moment, ils ont appris des choses. Si on poste des recettes, si on poste, je sais pas, une quote un petit peu de motivation, une motivation inclusive. Surtout, nous, on est inclusif, tu vois. Et ben voilà, c'est une des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens aient envie de se lancer. Parce que nous, notre but aussi, c'est de plus en plus faire en sorte que les gens aient envie de se lancer. Tu vois, le but quand on poste des quotes et tout, c'est voilà, là après on a créé notre podcast et tout, mais au tout début c'était vraiment voilà, le nombre de personnes qui est venu nous voir en nous disant putain, vous êtes une source d'inspiration, vous prouvez qu'on peut lancer, je peux me lancer dans je sais pas quel business comme je veux, moi aussi je peux me lancer dans le business, je peux créer je peux être fleuriste si je veux, je peux lancer un truc de livraison de fleurs online, etc. Et en fait, oui, tu peux. Nous, on veut valoriser les gens et pas les dévaloriser en leur montrant des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? On veut pas que les gens nous envient, mais une envie malsaine. On veut que les gens veuillent être comme nous, mais ils ont les outils pour être comme nous. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est ça, les inspirer plutôt que de les rabaisser ou de les dégoûter.
Exactement, exactement. Donc, il faut toujours penser quand tu postes quelque chose, dire est-ce que ça va faire kiffer les gens dans le sens où est-ce que les gens vont sortir grandis de ce que tu fais. Okay. Et ça, ouais, ça avec des quotes, avec même mettre en story un petit peu les gens qui achètent tes produits, donner la parole aux gens, tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Être inclusif, tu vois.
Être positif et puis l'objectif c'est de transmettre aussi. J'ai remarqué que c'était beaucoup ce qui vous guidait, c'est la transmission. Ouais. C'est éduquer les gens, mais éduquer dans le bon sens, hein, pas tu dois faire ça parce que sinon ta vie sera pourrie, tu dois manger ça parce que voilà, tu dois faire du sport. C'est de l'inspiration, c'est de l'éducation qui est positive à chaque fois.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est, on veut inspirer positivement les gens et on a envie que, franchement, on a envie que les gens osent se lancer, tu vois. On a envie que les gens osent se lancer et n'aient pas peur, tu vois. Tu sais, en fait, on ouvre le chemin, tu vois.
Ouais.
C'est ce qu'on essaie de faire, on ouvre le chemin.
C'est ça.
Si je reprends quelque chose que tu as dit au début, tu disais on a voulu justement prouver et montrer que n'importe qui pouvait le faire et qu'on n'avait pas besoin de sortir d'une école de commerce ou de connaître.
Exactement, ouais.
Donc en fait, on voit bien que ça se ressent partout et on sent vraiment qu'il y a une mission derrière. Vous avez vraiment une intention derrière et ça, on sent qu'il y a des vraies valeurs.
C'est ça.
Et elles sont collées à vous en fait. Depuis le début. Et c'est intéressant que tu aies parlé du troisième point qui est l'expérience du client. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la personne ? Parce que souvent, et ça c'est pour ceux qui nous écoutent, parce que j'aime beaucoup que tu aies parlé de ça, c'est comment créer cette expérience. Ça a été vraiment intéressant que tu puisses aborder ce sujet-là. Parce que souvent, les clients qu'on a, les gens avec qui on discute, se cassent la tête. Sur l'expérience. Et ils sont toujours dans l'optique de vendre, Et je leur dis, non, tu ne dois pas vendre, tu dois aider. Tu dois t'amuser, tu dois aider. Et après, la vente, ça viendra plus tard. Et c'est ça le problème, c'est qu'on voit, quand tu l'avais dit, il y a deux types de profils. Il y a le profil des gens qui sont là pour vendre. Et ça marche, mais à moyen terme, à court terme. Même.
C'est ça. Tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que Gary Vee, par exemple, et d'autres gens, ce qu'ils font en fait, et pour moi, ça a une vraie valeur, c'est qu'ils donnent du contenu gratuitement. Si tu donnes du contenu gratuitement, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont se dire, ok, moi, personne ne me connaît, on ne me connaît pas. Ni d'Ève ni d'Adam, mais à partir de demain, j'offre des formations sur l'entrepreneuriat et Instagram à tout le monde pour 30 euros via Skype, machin, par demi-heure, machin. T'as un mec qui fait ça, mais personne ne le connaît. Et tu as l'autre mec qui va poster du contenu où il montre qu'il est expert. Il va poster ça gratuitement. Il va poster. Mmh. Du coup, il deviendra une référence. Et ensuite, il va proposer aux gens, à la communauté qu'il a réussi à créer, il va leur proposer des formations. Mais tu peux pas vouloir prendre si tu n'as rien prouvé. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est important, tu vois, de créer du contenu autour de ce que tu sais faire. Parce que si tu te dis, voilà, expert dans un secteur, mais que toi, tu n'as pas ton portfolio, en fait, tu n'as pas ton portfolio de ce que tu as déjà fait avant, bah, faut le créer. Et si tu ne le crées pas et que tu dis directement, bah voilà, moi, je fais ça, machin, personne ne va venir, ou ça sera très dur de prendre des clients. Donc, il faut toujours donner. Il faut toujours donner du contenu gratuit. Nous, tu vois, on a fait des recettes. On montre comment faire un granola, machin. Et il ne faut pas avoir peur aussi de montrer comment tu fais les choses. Parce que c'est pas parce que tu montres que les gens vont te voler ton truc. Tu vois, les gens qui vont te voler, tu as 2% des gens qui vont aller jusqu'au bout. Par exemple, nous, tu as 2% des gens qui nous suivent qui vont se dire… ah ouais, j'ai vu leur recette sur Instagram, je vais lancer une marque de muesli aussi avec cette recette-là qu'ils ont fait. Je vais essayer de vendre ça et d'aller en distribution chez Monoprix, etc. Et tu vois, ils vendent ça partout en France. Il y a 2%, 1% qui va essayer, mais le reste, ils vont juste dire « Oh, c'est une super recette, je vais l'essayer chez moi. » Ou alors « Oh, c'est du bon contenu, ben, je vais regarder le contenu, la vidéo est cool. » Voilà. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Parce que déjà, l'ambiance que vous mettez en créant les recettes, elle est différente d'ailleurs aussi.
Ça, c'est un truc
qui m'avait interpellé beaucoup. Donc,
tu sais, ça fait plaisir que tu dis ça parce que pour les recettes, en fait, on s'est dit, il y a plusieurs types de contenus pour faire des recettes. Tu as les trucs comme, tu sais, pris du dessus, là, tu sais, en plongée avec les mains et tout. Ouais. Nous, on ne kiffait pas trop ça. On s'est dit, ça ne nous ressemble pas. Encore une fois, on revient à l'identité de marque. Ça ne nous ressemble pas de faire des trucs où on voit nos mains. Nous, on a besoin de nous voir. On a besoin de parler aux gens. On a besoin de faire sentir aux gens qui sont à la maison. Mmh. Tu vois, qui sont avec nous. Et c'est comme ça que tu es proche des gens, c'est en les invitant chez toi. Et ça, pour le coup, on l'a pensé en mode influenceur. Influenceurs, blogueurs, c'est ce qu'ils font. Ils invitent les gens dans leur intimité. Mmh. Et donc, nous, ça, on a pris ça de ces gens-là. Alors, entre autres, on s'est dit, ben voilà, nous, on veut faire ça. Ben, tu sais, les vidéos de chefs là, que tu vois, Jamie Oliver et tout.
Mmh. Voilà. Ah, c'était le même genre, ouais.
Nous, on s'est dit, on veut faire du Jamie Oliver, on ne veut pas faire du food machin là. Nous on va faire du Jamie Oliver, des trucs de qualité, sauf qu'on amène notre vibe dedans. Et en fait là, ça, les gens ils ont kiffé, ouais. Parce qu'en général c'est ce que font les gens, c'est quand ils essayent de faire ça, les gens ils posent leur caméra et la caméra elle est statique, et du coup voilà, il n'y a pas vraiment de mouvement de vie. Nous, la caméra, si tu regardes bien, elle bouge, elle nous suit et tout, tu vois. Et c'est dur à filmer parce que tu fais des one shot, donc faut que tu connaisses bien ton texte. Mais à part ça, franchement, c'est trop cool. Et c'est ce qui fait la différence entre un contenu basique et un contenu un petit peu élaboré. Mais si tu regardes la saison 1 qu'on a fait, la saison 1, elle est comme ça. Le truc, il est posé. Il faut bien commencer quelque part. Il ne faut pas commencer en espérant faire une vidéo de cette qualité-là directement, tu vois. Sauf si tu as tout le matos, c'est que tu t'y connais. Mais nous, on ne s'y connaissait pas au début. On a fait une première saison que les gens ont grave kiffé, mais la caméra, elle était posée et on a mis notre énergie, tu vois.
Puis la créativité est arrivée après, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est un peu… tu vois, c'est vraiment… pour moi, à ce niveau-là, il ne faut pas… C'est une référence un peu particulière. Mais il ne faut pas essayer d'être Son Goku… à son niveau final, donc là quand il est en ultra instinct avec les cheveux noirs, gris, machin, quand il est super fort, alors que tu viens de commencer, alors que tu es Sengoku enfant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le parallèle des startups. Là, j'ai un truc que je prépare sur ça. C'est l'entrepreneuriat selon Dragon Ball Z. C'est beaucoup trop de gens veulent être Sengoku en super guerrier alors qu'ils sont Sengoku enfant encore. Sengoku, si tu regardes bien, il y a 30 ans de Dragon Ball Z avant qu'il arrive à être super guerrier. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est trop, j'aime bien, j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup la caricature.
Bah ouais, c'est ça, et dans tous les mangas, si tu regardes bien, il y a toujours le travail qui t'emmène à un niveau supérieur.
Ouais, bah c'est l'enseignement par excellence de tous les mangas, c'est ça.
Exactement, c'est toujours tu travailles
comme des fous.
Mais oui, ils tapent comme des oufs pour devenir meilleur et plus fort. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, tu vas jamais commencer en étant Uber.
Ouais.
Et même Facebook, au début, c'était merdique. Tu vois, mm-hmm. tous les trucs au début, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être Facebook aujourd'hui. Mais mec, Facebook, ça leur a pris plus de 10 piges pour être ce qu'ils sont aujourd'hui.
Exactement.
Tu vas arriver,
exactement.
Tu vois. Et donc, c'est vraiment ça, c'est ne pas avoir peur, justement, de créer du contenu et de donner du contenu gratuitement, même si le contenu n'est pas forcément qualitatif au niveau visuel, du moment qu'il est qualitatif en termes de ce que ça t'apporte.
Ouais, bien sûr.
Parce que t'es dans le partage. J'aime beaucoup la troisième partie du top 3. Et tu vois, nous, on a un mantra chez Jaco, mm-hmm. c'est que c'est pas une question de technologie, les médias sociaux.
Ouais.
C'est une question de sociologie. C'est Brian Solis qui dit ça. Et c'est une phrase qui m'a toujours marquée et je l'ai repris comme mantra parce que ça nous représente. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est d'abord une question sociologique. Avant tout, ce qui vient derrière, comme tu disais, d'essayer d'être parfait, de faire de la préparation, de tout mettre en scène absolument. Donc, merci en tout cas pour ces trois conseils.
De rien.
Et du coup, là, je pense quand même, ça fait pas mal le tour, ça fait un petit moment qu'on est ensemble.
Ouais.
Il y a tellement de choses à dire, cool. En même temps, il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'on se prépare un rapide point du coup sur les stratégies observées et à mettre en place par rapport à la situation de confinement actuelle, comme on a pu en parler rapidement au début de ce podcast?
Les stratégies que les gens peuvent, ce que j'ai observé un peu pour le confinement.
Ouais, qu'est-ce que t'as observé qui t'a fait tilter ou tu te dis ouais, c'est quand même fou les pivots etc qui ont pu être.
Ouais. Bah alors moi, ce que j'ai constaté c'est que le premier truc c'est le nombre de lives qui a explosé.
Yes. Ouais.
Le nombre de lives. En fait, on dirait que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient fait Instagram live et qu'ils pouvaient parler avec les gens. Et en fait, j'espère que ça va continuer après parce que. Les gens n'ont jamais autant voulu communiquer en live avec les autres que maintenant.
C'est ça.
C'est vrai.
Et ça, vraiment, les gens, ils font des lives, beaucoup de sport. Ça, c'est très cool. Il y en a un petit peu trop, mais c'est très cool. Ils font tout ça à 18h en plus. C'est un peu relou, mais ça fait un peu bugger à Instagram. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Ouais,
j'ai remarqué.
Ouais, donc ouais, ça, les lives. Et du coup, pour moi, c'est le moment de poster plein de contenu sans être too much. Mais pour moi, c'est maintenant. Tu sais, je sais pas si vous avez vu Avengers.
Ouais.
Vous avez vu Avengers dans Endgame.
Ouais.
À un moment, comment il s'appelle? Doctor Strange, genre à la fin, il fait ça à Tony Stark, qui fait ça. Genre en fait, il monte son doigt en disant que c'est dans c'est ces, en fait c'est tout de suite qu'il faut agir parce qu'en fait pour l'histoire, lui il a fait il a visité 1000 réalités alternatives pour trouver celle dans laquelle il allait réussir à battre le méchant. Ouais.
C'est ça.
Et donc, au moins, il montre son doigt comme ça à Tony Stark, c'est pour lui dire que c'est dans cette réalité-là.
Et que c'est maintenant donc, qu'il faut agir.
C'est maintenant qu'il faut agir, tu vois. Et après, il a agi. Et en vrai, c'est maintenant qu'il faut agir. Il y a des comptes Instagram de yoga ou de sport qui ont pris 5000 followers.
Ouais.
Juste en faisant des lives tous les jours.
Ouais.
il y a des gens qui font des lives souvent qui prennent des followers de ouf. Donc, si vous aviez un doute sur la capacité de ce confinement-là à jouer en votre faveur, allez voir ce que font les autres. Parce que ça, c'est un truc qui marche bien. Et il ne faut pas forcément parler tout le temps du Covid. Il y a les marques food parlent beaucoup du Covid. Les marques, les startups un petit peu tech, elles parlent du Covid. Mais le Covid, ça, on va en parler 30 secondes. Là, on en parle, mais là, on en parle de moins en moins parce que les gens, ils en ont déjà marre de parler de ça sur Instagram. Ce qu'ils veulent, c'est du divertissement. Et si tu regardes bien, bah, les marques qui avaient mis un petit peu en pause leur Facebook ad, bah là, ils se disent mais en fait, les gens, ils sont chez eux. Vas-y, je balance ma pub pour mon shampoing, je balance ma pub pour ça, parce qu'en fait, Amazon ou tous les trucs de livraison, ça marche encore.
C'est ça.
Ouais. Les gens vont continuer à livrer. Et donc, en vrai, en fait, il faut continuer à poster. Mais le shift, il se fait vraiment au niveau du digital. Il y a des gens qui sont il y a une meuf qui avait comment ça s'appelle, je crois que c'est un restaurant. Elle s'est mise à faire des cours de cuisine en ligne.
D'accord.
Tu vois,
c'est des cours
de cuisine en ligne. Ouais. Et mais en fait, c'est payant. Et elle se met sur Calendly. Et après, elle met sa caméra et elle dit, voilà, je vais vous montrer comment faire ça, comment faire ma recette de machin. Et tu payes pour ton heure. Tu vois,
c'est sympa. C'est quoi le compte à suivre si les gens veulent le suivre?
Il faut que je le retrouve. C'est Maggie, je sais pas quoi. Mais je vous le redonnerai.
Yes, avec
d'accord,
plaisir.
Merci.
Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens justement qui font des consultations online aussi au niveau du dev personnel. Parce que, de toute façon, c'est du digital. Hein. Tu peux parler aux gens à distance comme on est en train de faire. Donc, tu n'as pas besoin d'être sur place, etc.
Tu
as beaucoup de gens qui se reconvertissent un petit peu dans le dev perso. Là, tous les entrepreneurs qui ont un peu de temps, ils disent, bah voilà, moi, j'offre des consultations. Moi, ce que je vais faire là, je vais le faire ça aussi. Là, parce qu'il y a tellement de gens qui demandent des conseils et tout. Bah, je veux dire, bah, écoute, c'est temps la séance, tu me bookes et voilà. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est,
ça fait partie des opportunités aussi.
Ouais, c'est vraiment le truc. Nous, tu vois, on a lancé notre podcast toute fin d'année dernière. Et là, bah, tu vois, on poste plus d'épisodes. On poste. Nous, on a la chance d'avoir enregistré plein d'épisodes à l'avance.
Ouais.
Et donc, on poste des épisodes. On continue à poster des trucs. Et puis, on voit que les gens, ils sont encore plus dessus parce que.
Il y a du trafic en ce moment.
Il y a du trafic et tout. Donc, c'est maintenant. Tu vois, il y a un truc qui est ouf en termes d'impact et d'influence. C'est il y a un documentaire qui va sortir sur Michael Jordan, là.
Ouais.
The Last Dance. Elle va sortir sur ESPN au mois de juin.
OK.
Et du coup, dans le podcast de LeBron James, il a un podcast avec une meuf et deux autres gars. Il parle de ce documentaire en parlant et ils disent, putain, ESPN, si ils sortent ce documentaire pendant le confinement, là, au mois d'avril, les vues qu'ils vont faire, elles seront énormes. Et du coup, ESPN, ils ont dit, on sort le 19 avril sur Netflix.
Premier épisode.
C'est ce que je veux dire. Et en fait, tous les gens qui avaient des trucs au niveau du digital pour poster plus tard et tout, ils peuvent le faire maintenant. En fait, c'est maintenant qu'il faut capitaliser.
Exactement.
Pour moi, il faut capitaliser maintenant sur tout ce qui est digital, faire tes contacts, faire tes podcasts, parler aux gens. Aussi, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Et voir les autres opportunités. Parce que peut-être que un mec qui est en train de travailler sur sa start-up, qui était en train de commencer, qui venait de se lancer, il se dit, ah bah putain, en fait, ce modèle-là, il ne marchera plus. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura un avant et un après coronavirus.
Et oui.
Les priorités seront pas les mêmes.
Ça, c'est clair.
Tous ceux qui se lancent dans des trucs qui sont cool, qui étaient cool hier, peut être considéré comme futile demain. tous les investisseurs qui investissaient dans des trucs qui étaient cool hier vont se remettre à investir dans les trucs qui te sauvent au quotidien, donc dans la food, dans, tu vois, dans l'agriculture, dans des trucs qui te permettent en vrai de survivre si jamais il y a des problèmes, tu vois ce que je veux dire. Et puis les gens vont se retrouver dans des trucs comme ça ou dans la tech, genre dans le médical, ils vont investir dans le médical, dans la recherche, beaucoup plus qu'avant. Donc, faut aussi se dire quelles sont mes compétences. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer à ce niveau-là pour moi? Est-ce que je ne me lancerai pas dans un truc peut-être comme ça, tu vois? Tu vois, il y a plein de trucs auxquels il faut que les gens pensent parce que rien ne sera plus comme avant. Et là, les budgets des agences de com, des marques, etc., eh ben, il est en train de fondre comme neige au soleil.
Ouais. Exactement.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut se réinventer. Il faut pas avoir d'ego, il faut se réinventer.
C'est ça. Bah, écoute.
J'aime bien cette phrase-là. Il faut pas avoir d'ego, il faut se réinventer.
Ouais.
Est-ce que t'as... Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette période-ci, c'est qu'on voit beaucoup plus les gens sous leur vrai. Les facettes, on va dire, et les gens sont plus vrais, les gens sont plus dans le partage, la solidarité.
Ouais. Bah ouais.
C'est
beaucoup plus. Ils ont un ennemi commun.
Ça a ramené les gens sur Terre à la réalité, justement, et les mots dont tu parlais a été mis de côté. Et c'est beau à voir, tu vois, d'avoir autant de partage. Par exemple, tu mentionnais les coachs sportifs qui donnent des lives avec des entraînements. Ils partagent, ils sont dans le partage.
Ils partagent.
Ils sont plus dans un objectif de il faut que je fasse des ventes et tout ça. Non, c'est, tout le monde a compris qu'on était dans le même bateau. C'est ça qui est beau.
Bah oui, et ils partagent, mais ils en bénéficient parce que là, leur nombre de followers, il augmente, donc leur influence augmente aussi.
Exactement.
Et pour l'après-confinement, ça va être pas mal pour eux.
Bah ouais, c'est toujours le après parce qu'il y aura toujours un après.
Exactement.
Il y a toujours un après. Et c'est ça que les marques doivent retenir, c'est qu'on va se rappeler des marques qui étaient là pendant cette période-là. Qui était présent, qui communiquait, et qui était là pour nous apprendre des choses, nous éduquer, nous donner des tips pour pas qu'on s'ennuie ou tu vois, c'est le moment d'apprendre des nouvelles choses. Coronavirus positif.
Sur ces belles paroles de fin, on va te libérer du coup.
Ok.
Merci beaucoup.
Merci à vous les gars, c'était cool. Hein.
Ah ben avec grand plaisir. C'est à l'occasion, si je passe sur Paris après confinement, j'essaierai de capter.
Ouais, bah n'hésite pas, tu me tiens au courant, on se capte.
Je suis sur Bordeaux, moi, du coup, donc dans l'absolu, c'est pas très loin quand il n'y a pas de confinement.
Ok. Bah cool, c'est ça.
Cette interview touche donc à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez pu trouver dans ce podcast, dans cette interview avec Dicom, la valeur que vous étiez venu chercher. Pour en savoir plus sur Dicom, ses réalisations, mais aussi continuer à vous abreuver, j'ai envie de dire, de la valeur qu'il partage, je vous invite à rejoindre ses différents réseaux sociaux, donc déjà la marque qu'il a fondée avec Bakang et Sylvain, qui est notamment Dear Musli, dont on a parlé plusieurs fois à travers cette interview. Vous trouverez ça sur Instagram, donc Dear, D-E-A-R, Musli, comme ça s'écrit, M-U-E-S-L-I, ou directement alors sur les Musli Boys, encore une fois sur Instagram, ou alors sur leur podcast Lucky Day, encore une fois que vous trouverez sur Instagram et sur toutes les plateformes de streaming de podcasts. Je vous invite d'ailleurs fortement à aller en écouter quelques-uns, car pour en avoir écouté plusieurs de leurs épisodes, c'est vraiment des podcasts qui sont très riches, vraiment très très riches en valeur et partage, notamment grâce aux guests formidables qu'ils ont su avoir sur leurs épisodes. Et enfin pour Jaco, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Instagram directement à Jaco Social, donc J-A-K-O-S-O-C-I-A-L. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.